Au XVIIe siècle, le jésuite Louis Bourdaloue était connu pour être un prédicateur hors pair. Mais, assez curieusement, dans son sermon sur la pénitence, il dit « Crains, malheureux, et défie-toi de ton espérance même. Si je dois mettre en doute mon espérance, que me reste-t-il donc ?» Et ce n'est pas Albert Camus qui va me consoler, car pour lui, tout le malheur des hommes vient de l'espérance. Quel contraste avec l'affirmation de l'apôtre Pierre qui écrit « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée ». Je continue à lire dans le premier chapitre de la première épître de Pierre. « C'est pourquoi, tout en tenant votre esprit en éveil et en menant une vie sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Verset 13. « C'est pourquoi est une transition qui introduit un passage à l'acte. Pierre passe de la théorie à la pratique. Mettez toute votre espérance est le seul verbe conjugué de ce passage. Les autres sont des participes. Mettez est à l'impératif. Pierre bouscule ses lecteurs en leur demandant de prendre par la foi la décision d'espérer en la grâce de Dieu. C'est un ordre qui ne tient pas compte des sentiments et des circonstances. La foi, l'espérance et l'amour sont les trois vertus fondamentales chrétiennes. La foi agit dans le présent et s'approprie ce que Dieu a déjà révélé, tandis que l'espérance porte sur ce que Dieu va faire dans l'avenir. L'espérance puise ses racines dans la fidélité du Dieu qui est toujours digne de confiance. Les croyants doivent espérer pleinement, résolument, et sans douter en la grâce de Dieu. Nous avons une description du jour où Jésus-Christ apparaîtra au début du livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean écrit « Voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra et même ceux qui l'ont percé et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen !» Quand Jésus reviendra pour établir son royaume, l'espérance des croyants deviendra une réalité concrète dans le sens qu'ils commenceront alors à en tirer, sinon tout, du moins une grosse partie de ses bénéfices. Le salut et la vie éternelle et la gloire qui l'accompagne reposent uniquement et entièrement sur la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Tous les dons que Dieu fait à l'homme sont des actes bienveillants qui ne dépendent jamais des mérites de l'homme. Dieu ne doit rien à personne, mais toutes ses créatures lui sont redevables. Le croyant doit espérer en la grâce de Dieu tout en tenant son esprit en éveil et en menant une vie sobre, littéralement en attachant les reins de son entendement et en étant sobre. Au Moyen-Orient, depuis l'Antiquité, les gens portaient une longue tunique qu'ils laissaient flottante dans leur maison. Mais quand ils voulaient marcher, courir, travailler ou passer à l'action, ils relevaient les pans de leur robe qu'ils coinçaient dans une ceinture qu'ils serraient autour des reins afin de ne pas être gênés par les plis amples du vêtement. Pierre se sert de cette image comme métaphore pour exhorter les croyants à discipliner leurs pensées afin de vivre selon les valeurs morales et spirituelles des Écritures, afin d'honorer Dieu. L'apôtre Paul utilise la même image quand il dit « Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. » Le croyant doit non seulement tenir son esprit en éveil, mais aussi mener une vie sobre, ce qui consiste à se préserver du péché sous toutes ses formes et à ne pas se laisser distraire par les attraits de ce monde. Alors, il pourra exprimer son espérance chrétienne comme l'apôtre Jean qui, à la fin de sa vision, a dit « Viens, Seigneur Jésus !» Je continue le texte. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint » versets 14 à 16. Les croyants qui espèrent et attendent la manifestation de Jésus-Christ désirent le voir régner sur cette terre. Mais avant l'établissement de son royaume, aura lieu l'enlèvement de l'Église, qui est le prochain grand événement inscrit sur le calendrier prophétique. En attendant ce jour, les croyants doivent vivre dans la sainteté. L'apôtre Jean déclare « Tous ceux qui espèrent en la manifestation du Christ se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. » L'expression « comme des enfants obéissants » que Pierre a construite donne à réfléchir parce que sa forme grammaticale sous-entend que l'obéissance va de pair avec la foi authentique. En d'autres mots, les croyants sont des enfants obéissants, tandis que les non-croyants sont appelés « fils de la rébellion » par l'apôtre Paul. Pour Pierre, non seulement la parole de Dieu donne l'espérance, mais elle conduit aussi le croyant à obéir à ses commandements. Voilà pourquoi il dit « Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance ». Le mot pour « diriger » signifie « former »,« façonner ». Le croyant n'est plus tenu d'obéir aux passions et pulsions qui le contrôlaient auparavant, mais il doit vivre dans la sainteté. L'enseignement de l'apôtre Paul fait écho à l'appel de Pierre quand il écrit « La vie chrétienne consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre ». Celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Fin de citation. Pour étayer son argumentation, Pierre cite un passage de la loi où il est dit « L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » La sainteté est ce qui distingue Dieu de tout ce qui est mauvais et mal. Elle se manifeste par la pureté morale de son caractère comme sa justice et sa bonté. En donnant Dieu comme modèle à ses lecteurs, Pierre est plutôt du genre exigeant. Mais en fait, il ne fait que répéter ce qu'il avait entendu Jésus dire dans le sermon sur la montagne. En effet, à ceux qui désiraient entrer dans le royaume de Dieu, Jésus a donné comme condition « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui ». Dans ses épîtres, l'apôtre Paul place la barre tout aussi haute quand il écrit « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. » La sainteté est à la vie spirituelle ce qu'est la santé physique au corps charnel. Cela dit ici-bas, les croyants n'ont pas la possibilité d'être saints au sens absolu du terme et de vivre sans péché. Pourtant, leur objectif est de se rapprocher autant que possible de cet idéal et avec le temps, ils doivent grandir dans la foi, changer et devenir matures. L'année de la naissance de notre premier enfant, nous avions des amis qui, eux aussi, ont eu une petite fille. Elle était mignonne dans son berceau et faisait la fierté de ses parents. Seulement à l'âge de 10 ans, elle était toujours dans un lit. Elle souffre d'une maladie génétique et au lieu de grandir, elle est restée au stade petit enfant et ne deviendra jamais mature, adulte, responsable. Et c'est une tragédie. Tout comme les Israélites étaient appelés à aimer Dieu, à le servir et à se séparer de tout acte immoral ou impur, les croyants ont reçu le même appel et doivent même porter l'image de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Le croyant est très imparfait quand il commence la vie chrétienne, mais avec le temps, il est supposé s'améliorer pour éventuellement parvenir à la perfection dans les cieux. Je continue le texte. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Verset 17. Jésus a enseigné à ses disciples à invoquer Dieu en tant que Père. Il leur a dit « Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. » L'apôtre Paul confirme le caractère légitime d'appeler ainsi le Dieu Tout-Puissant quand il écrit « Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Le croyant jouit donc du privilège extraordinaire de pouvoir appeler Dieu « Père ». Cependant, tout comme dans une famille antique, où le Père détenait une très grande autorité, le Père céleste doit commander le profond respect de ses enfants. L'exhortation manifestée par votre manière de vivre que vous le révérez peut aussi être traduite par « conduisez-vous avec crainte ». Et c'est un ordre auquel tous les croyants sont tenus d'obéir parce que Dieu est aussi le juge de la terre et du ciel et il évaluera l'œuvre de chacun en toute impartialité. En effet, même si les croyants ne seront pas jugés pour leurs fautes, ils vont quand même subir un examen approfondi de leur vie. L'apôtre Paul écrit « On peut bâtir sur le fondement qu'est Jésus-Christ avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire, mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes, bons ou mauvais, qu'il aura accompli par son corps. » Fin de citation. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas trop emballé par ce rendez-vous où Dieu va faire le bilan de ma vie et je préférerais éviter ce grand règlement de compte. Mais comme il n'y a pas moyen, j'essaye de marcher droit, d'autant plus que l'avertissement de Pierre ne concerne pas que l'au-delà, En effet, Dieu juge aussi ses enfants sur terre. Je lis un passage. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Dieu est un père plein d'amour et généreux, mais il est également saint et le juge suprême. La façon dont je me comporte aura des répercussions ici-bas et dans l'éternité. Je continue le texte. Vous avez été rachetés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Versets 18 et 19. Un des écrivains de l'époque puritaine a fait une remarque très pertinente concernant l'œuvre de Dieu. Il a observé avec raison que le rachat de l'homme est son œuvre de maître. En gros, il a dit « Grande fut l'œuvre de la création, mais bien plus grande celle de la rédemption. Il lui en a coûté bien plus de nous racheter que de nous créer. La création s'est faite sur une parole dite, tandis que la rédemption sur du sang versé. » Le mot pour « racheter » veut aussi dire « libérer ». Pierre fait allusion au rachat d'un esclave au moyen d'une somme d'argent. Les Grecs utilisaient ce mot pour le rachat par une rançon d'un prisonnier de guerre. Les rachetés sont libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. C'est pas une éloge des anciens. L'apôtre Paul résume très bien l'état d'esclavage de l'homme naturel non régénéré quand il écrit « Il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. » Fin de citation. Ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes mènent une existence futile, inutile et vaine au regard de Dieu et de l'éternité. Jésus a dit « Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd son âme? Et que peut-on donner pour acheter son âme? » Quant aux gens religieux, Dieu n'a que faire de leurs pratiques. Aux chefs religieux de son époque, Dieu a dit « Hypocrite !» Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. La religion, quelle que soit sa forme et sa couleur, est un reflet de la corruption du cœur de l'homme au même titre que ses pulsions primaires. Nous sommes tous coupables devant Dieu et sous son jugement, et je n'ai pas la possibilité de me racheter, d'acquitter ma dette envers Dieu. Un prophète déclare, « Quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, la tache de ta faute resterait devant moi. » Voilà pourquoi le rachat de l'homme a exigé la mort du Christ que Pierre compare à un agneau pur et sans défaut. Cette perfection était la condition requise pour tout animal offert en sacrifice à l'Éternel. Pierre était présent lorsque Jean-Baptiste a désigné Jésus comme l'agneau qui ôte les péchés du monde. L'image de l'agneau est tirée de la première Pâque où, dans chaque maisonnée, la vie d'un animal a été échangée contre celle d'un premier-né israélite. Pareillement, pour racheter l'humanité, il a fallu le sacrifice d'un innocent, mais pas un animal, un homme, et il fallait qu'il soit sans faute. Or, seul le Fils de Dieu convenait. Un passage du Nouveau Testament dit « Il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. » Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. » Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Toute faute est d'abord commise contre Dieu. C'est lui l'offensé, et donc lui qui fixe les termes de la rédemption. Son prix est la vie de son propre Fils. Jésus a donc versé son sang, c'est-à-dire donné sa vie en sacrifice. Il a ainsi fait l'expiation des péchés. Ce prix n'a aucune commune mesure avec une vulgaire marchandise comme de l'argent ou de l'or, qui sont des matières périssables et qui, au fond, sont sans valeur. L'apôtre Paul écrit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Alors que Jésus n'avait jamais commis de péché, Dieu l'a traité comme un vulgaire pécheur de bas étage. Il a placé ma culpabilité sur son dos et exigé de lui la pleine rétribution de mon péché, c'est-à-dire la mort. Les fautes que Jésus a portées n'étaient pas les siennes, mais les miennes, ainsi que celles de tous les pécheurs de tous les temps qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Dieu a déversé sur son Fils toute la fureur de sa colère contre toutes ses ordures. Le sang a quelque chose de repoussant. Il attire les mouches, devient noirâtre en séchant, et il se putréfie. Pourtant, et comme le dit l'apôtre Pierre, le sang de Jésus est précieux.